Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons en Chine, à Shanghai exactement, mégalopole de plus de 22 millions d'habitants. C'est là qu'en octobre dernier, la fondation de l'Académie de médecine organisait en partenariat avec l'Association de médecine chinoise le deuxième forum franco-chinois de santé publique et d'innovation médicale. Rappelons que la mission de l'Académie de médecine est de développer et de valoriser le rôle de la France dans le domaine de la santé. Et pour ce faire, elle organise des forums et noue des partenariats avec des pays comme la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, le Mexique ou encore le Sénégal. Deux thématiques correspondant à des enjeux actuels de santé publique ont donc été abordées cette année à Shanghai: santé et environnement, vieillissement et innovation. Les relations franco-chinoises dans le domaine de la santé, c'est un reportage signé Igor Strauss. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Ce genre de rencontre, c'est surtout un moment de partage et d'échange entre médecins de différents pays avec des sensibilités différentes.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'hôpital de Ruijin, un des hôpitaux ultra-modernes qui accueillait ce forum, les relations avec la médecine française et les médecins français sont très anciennes. Petit rappel historique avec Laurent De Gauze, professeur d'hématologie, ancien président de la Haute Autorité de Santé et académicien.
En 1903, un riche chinois qui s'appelait Ma Shangbo, et qui était chrétien d'ailleurs, et qui a décidé de créer une université à Shanghai. Et cet homme a demandé aux jésuites français de venir tenir cette université qui s'est appelée Aurore. Commencée en 1903, les étudiants de médecine, 4 ans plus tard, devaient en fin de compte aller à l'hôpital, parce qu'il fallait bien qu'ils voient des patients et qu'ils les soignent. Donc il a été construit en 1907, et un hôpital qu'ils ont appelé Sainte-Marie. Et en fait, cet hôpital avait deux grands piliers. Un pilier qui était de soigner les pauvres, et dont ils ont fait un département qui s'appelait Saint-Vincent, je pense en raison de Saint-Vincent de Paul. Et en même temps, ils faisaient tout ce qui était le plus sophistiqué, puisqu'ils avaient des moyens. Ils ont été les premiers services de radiologie, le premier service de biologie en Chine, le premier service de radiothérapie. Donc ils ont mis tout ce qui pouvait être le plus moderne. Donc il y avait cette dualité entre une charité forte et une envie d'avoir une médecine très moderne ici. Et puis en 1949, assurément tout ça a disparu, c'est la révolution. Donc les jésuites sont rentrés en France, les professeurs et médecins ont été dispersés dans toute la Chine. Et en 1982, il y a un monsieur qui était un médecin, qui était ancien interne des hôpitaux de Paris, formé par un professeur qu'on appelle professeur Vidal, que les médecins connaissent bien, et qui, cet homme s'appelait Quang. Et ce monsieur Quang a d'ailleurs sa statue dans l'hôpital, et il a dit en 1982, je vais refaire l'hôpital francophone comme du temps des jésuites, mais sans les jésuites. Et donc il a cherché ceux qui avaient à peu près 25-35 ans, en 1949, il en a trouvé 60 et les a nommés professeurs de cet hôpital qu'on a appelé Université Médicale Shanghai numéro 2, parce que numéro 1 c'était l'État. Donc ils ont recommencé cette filière francophone, c'est-à-dire à dire aux jeunes étudiants, parlez français, on enseigne en français et vous serez donc comme des médecins français. Voilà un peu l'histoire de cet hôpital qui a des liens forts avec nous tous. Et dans le bâtiment où nous sommes, qui est un beau bâtiment, 11e étage, vous avez des laboratoires qui s'appellent Sino-Français, où il y a autant de Français que de Chinois. Et donc on a un lien très fort dans la recherche, si vous voulez, médicale dans cet hôpital Ruijin.
Vous vous êtes donc rendu au 11e étage de l'hôpital Ruijin pour une visite surprise du laboratoire sino-français, toujours en compagnie du professeur Laurent De Gauze.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Qixin ?
Je ne suis pas Qixin. Qixin va participer.
En bas ?
Oui, en bas.
Allez, en bas tout à l'heure. Ouais. Ah bien, d'accord. Ouais. On va la voir. Parce que
Ça, c'est un journaliste. Et, il vient voir pourquoi il y a des laboratoires français ici.
Voilà. C'est magique.
C'est magique.
Voilà. On va lire. Et...
Ah, RFI. Voilà. Wow, RFI.
Voilà. Vous connaissez RFI?
C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Vous connaissez?
Oui, j'écoute tout le temps parce que c'est pas encore... écrasé en Chine,
coupé. Donc on
peut... Ouais, ouais. Ouais.
Et ici, vous travaillez sur l'hépatite?
Oui, plutôt hépatite et des problèmes du foie. S'il y a des anomalies, des enzymes, comme nous, on est un hôpital de haut niveau en Chine. Donc il y aura des patients qui viennent de tout coin de pays, viennent ici pour sauver des problèmes... il y a des infections, les gens sont plus susceptibles.
Donc, beaucoup la partie génétique. Ouais. Pourquoi est-ce que quelqu'un fait plutôt une infection du foie et quelqu'un d'autre ne le fait pas? Et donc, dans toute la Chine, il y a des différences.
Ouais.
Et les hépatites, c'est un gros problème en Chine?
Oui, oui, hépatite B. Mais avec la vaccination, tout ça baisse pour le moment. Mais il y a d'autres problèmes.
Et l'hépatite C, c'est moins un problème?
Toujours moins un problème que côté français. Parce qu'on a une gène, c'est un bon gène. Donc, si on prend l'interféron, on pourra avoir de bons résultats. On a de la chance pour hépatite C.
Ils ont beaucoup moins d'hépatite C que nous. Le gros centre, c'est l'Égypte. Il y a beaucoup d'hépatite C. Mais ici, en Chine, il y a beaucoup moins. Il y a l'hépatite B, mais la vaccination. Il y a une très grande campagne ici de vaccination. Mm-hmm. Et l'hépatite E aussi.
Oui, hépatite E.
Aussi.
Moi, parce qu'on mange des fruits de mer.
Mais l'hépatite C liée au VIH-SIDA ou liée à la toxicomanie, est-ce que ça, c'est un problème ou pas en Chine?
Si, ça, c'est un problème. Parce que VIH, tout ça, VIH est un peu délicat.
Pourquoi c'est délicat d'en parler?
Là, c'est...
C'est tabou?
Non, c'est pas encore tabou, mais c'est un peu difficile. Ouais. Mais mieux en mieux.
La Chine est de plus en plus claire et parle de plus en plus clairement. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait des difficultés pour pouvoir parler de ces maladies sexuellement transmissibles ou transmises par la drogue. Mm-hmm. Parce que le sexe est un peu... On n'en parle pas en Chine.
Là, il y a un mois, j'étais à Paris et je vois le 120 battements du corps.
Oui, un très beau film magnifique sur les débuts de l'ONG ACT UP.
C'est hyper beau ce film.
Hyper beau. Je suis d'accord avec vous.
C'est hyper beau. Hein. Oulala. Là là.
Vous avez pleuré à la fin?
Ah oui. Avec le battement du cœur. Même pour les Français à parler il y a 20 ans.
Bien sûr, bah c'est tout le combat contre le VIH qui est montré dans ce film. Mmh. Vous pensez qu'un tel film pourrait être diffusé en Chine ou pas? Parce qu'on parle d'homosexualité, on parle de sida.
Là, c'est off.
Non, c'est vrai, si je vous pose la question.
Non.
Ok, je ne vais pas vous déranger. Juste maintenant, pour revenir sur votre parcours à vous, votre parcours personnel, déjà, Edwin, est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire... Pourquoi vous avez étudié en français? Pourquoi vous parlez si bien français?
C'est juste une rêve d'enfance. Au début, je me suis dit, puisqu'il n'y a pas de médecin dans ma famille, donc je dois devenir médecin. Et puis, si je veux devenir médecin, je veux être le top. Et quand j'ai écrit mon choix, baccalauréat, j'ai une rêve de tout refaire. Donc, je trouve ça très belle. Vraiment. Donc, j'ai choisi ça tout simplement. Et puis, j'ai rencontré des magnifiques professeurs et des volontaires.
Qu'est-ce que, justement, ces médecins français vous ont apporté à vous, étudiante chinoise ? Et qu'est-ce que vous, maintenant chercheuse chinoise, qu'est-ce que vous apportez à la médecine française, j'ai envie de
dire ?
Les
esprits des morales, c'est difficile à décrire, je crois. Parce qu'en France, je crois, les Français, ils ont des esprits romantiques, des idées très belles. Mais des fois, c'est difficile de jusqu'au bout.
Il y a plus d'abnégation chez les Chinois ?
Je crois. Je sais pas. C'est possible, on vous prend une photo ensemble.
Ah, bien sûr, si vous voulez.
Mais
c'est plutôt avec le professeur.
C'est Laurent Degos. Je suis avec Hugues Doté à Paris. Voilà.
D'accord.
Voilà. Et j'ai travaillé avec Wang Xingyu et Chen Chu était dans mon labo.
C'est parfait. Chu Jing, professeur Chu Jing.
Et vous, vous n'avez pas dit votre nom ?
Y-U-E, c'est difficile à prononcer. Hubert U-U-E. U-E. U-E signifie joie. On prend un selfie ou...
On prend un selfie.
Allez, on prend un selfie, comme vous voulez.
Et moi, je suis un peu gros, là.
Mais non, vous êtes très... Docteur.
Ah non, je suis un peu trop gros, moi. Voilà, ça, c'est mieux que ça.
Alors, j'appuie sur le bouton, si vous voulez.
Ok.
Voilà.
Merci. J'ai pas même un rouge à lèvres.
C'est pas mieux. C'est parfait, écoutez.
Je
t'envoie le
selfie.
Ouais, avec plaisir.
Merci, hein. Au revoir.
Au revoir. Merci,
oui. Bien prononcé.
C'était une joie de vous rencontrer.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI et aujourd'hui nous sommes à Shanghai pour parler des relations franco-chinoises dans le domaine de la santé avec Igor Strauss qui parle donc cinéma et fait des selfies pendant ses interviews. Alors à l'hôpital Ruijin de Shanghai, il y a donc cette filière francophone depuis les années 90 et des échanges d'étudiants entre les deux pays.
Moi je suis professeur Zihong Liu. Je suis chirurgien orthopédique de l'hôpital Ruijin et en même temps je suis responsable du bureau de l'enseignement du français médical de la faculté de Ruijin Clinique.
Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte, cette filière francophone ?
Je pense que c'est au troisième ou bien quatrième année, ils ont déjà une formation des recherches scientifiques qui sont organisées par les professeurs français. Dans ce cas, il y a une partie des élèves qui peut être choisie, qui ont une occasion d'aller en France pour finir leur un an d'études de recherche comme Master 2. Et après, pour les élèves qui ont fini leurs études ici, presque à la fin de leurs études, au septième année, ils vont être choisis comme FFI, c'est faisant fonction interne. Dans ce cas, ils auront l'occasion de travailler un an dans les différents hôpitaux de France. C'est-à-dire qu'après 8 ans, lorsqu'ils ont diplômé, ils ont déjà l'expérience un peu internationale.
Mais en quoi c'est un plus pour un étudiant chinois ? Est-ce que la façon de travailler dans un hôpital en Chine ou en France, est-ce qu'elle diffère d'un pays à l'autre ?
Personnellement, je pense oui. Par exemple, c'est mon cas parce qu'à l'époque, la chirurgie orthopédique n'est pas très très développée en Chine. C'est juste en France, il y a 20 ans, que j'ai appris tous ces arthroplasties de hanches et de genoux. À vrai dire, avant de partir, je n'ai jamais pratiqué cette chirurgie à Shanghai, dans mon hôpital. Mais après une formation d'un an, je rentre dans mon hôpital et j'ai pratiqué toutes ces techniques. Et maintenant, je suis très spécialisé dans les prothèses de hanches et de genoux, dans ce domaine de la chirurgie orthopédique.
Inversement, les chercheurs français ou médecins français qui viennent ici, qu'est-ce que vous, Chinois, vous leur apportez, selon vous ?
Chaque année, dans notre faculté de médecine clinique de Ruijin, nous avons à peu près une trentaine d'externes qui viennent ici pour faire une étude à peu près deux mois. Tout le monde me dit que ces deux mois, c'est vraiment intéressant parce qu'ils vont trouver des cas très intéressants. Ils peuvent avoir trouvé des malades qui ne sont jamais résistés en France parce que la maladie est un peu différente que les deux pays. Dans ce cas, ça peut enrichir cette communication.
Alors, quelles sont les différences entre la médecine traditionnelle chinoise et la médecine française? Comment ces deux approches peuvent-elles se compléter pour de meilleurs résultats? Laurent De Gauss, professeur d'hématologie, ancien président de la Haute Autorité de Santé et académicien.
La médecine traditionnelle chinoise, elle cherche à soigner l'homme. Elle ne regarde pas la maladie. La médecine occidentale regarde la maladie. Nous, quand on voit une maladie, on cherche les causes, et en traitant les causes, on guérit la maladie. On met des antibiotiques, parce qu'on sait que c'est un microbe, et comme ça, on guérit la maladie. En médecine traditionnelle chinoise, ils ne cherchent pas du tout à traiter la cause ni la maladie, ils cherchent à ce qu'on reste harmonieux avec l'environnement malgré la maladie. Donc c'est une transformation de l'homme pour qu'il soit bien malgré sa maladie. Il n'y a pas d'antibiotiques dans la médecine traditionnelle chinoise, il n'y a pas de chirurgie dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc ils ont cherché à partir de plantes, à partir de tous les flux qui sont dans notre corps, notamment l'acupuncture est un moyen de changer les flux, chercher à faire en sorte qu'on retrouve une harmonie malgré son mal. Voilà un peu la complémentarité entre ces deux médecines. Et alors, nous avons travaillé, nous en France, sur toujours chercher les causes et traiter. Donc on avait travaillé sur une leucémie et toutes les leucémies. Et à l'époque, j'ai été frappé par un médecin israélien qui avait trouvé que à partir de cellules malignes, c'est une cellule maligne, c'est une cellule qui est bloquée à un état très immature, comme si on était un petit bébé, heureux petit bébé, on n'arrive pas à devenir adulte. Donc il a pu la transformer et la faire devenir normale, se différencier, comme l'on dit. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça pour l'homme et chercher vraiment comment on pourrait changer ça? Donc, avec une jeune interne, Christine Chaumienne, elle a mis en place des cultures de cellules. On a pu voir qu'en testant beaucoup de produits, les dérivés de la vitamine A, qu'on appelle rétinoïde, pouvaient transformer une cellule maligne de la leucémie la plus grave, qui s'appelle leucémie aiguë promyélocytaire, maladie rare, elle se transformait en normale. Donc ça a été pour nous une grande découverte. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas obtenir ce rétinoïde particulier, naturel. Et comme j'avais dans mon laboratoire M. Chen Chu, qui était donc un jeune étudiant, et son patron Wang Xiangyi, qui est venu de Chine, il me dit, je vais le faire fabriquer en Chine. Donc il est revenu en Chine, et deux ans plus tard, je suis venu en 87, En 87, je suis venu ici, à Shanghai, et j'ai vu les premiers malades qui prenaient donc ce médicament par la bouche, donc c'était un médicament simple, et tout revenait normal en un mois. Au lieu de six jours dans ma culture, c'était un mois, et tout revenait normal. Alors à ce moment-là, c'est devenu un peu étonnant pour nous tous. C'était un concept qui est nouveau, qui faisait que la cellule maligne n'était pas bloquée, puisque le dogme qui était dans la tête de tous, même les grands scientifiques, le dogme était que la cellule maligne est irréversible. C'était irréparable, et donc il fallait absolument la tuer par la chimiothérapie, par la radiothérapie, par la chirurgie, l'éliminer, on ne pouvait pas faire autrement. Et là, on arrive à la faire changer et la faire revenir normale. Donc ce qui était, c'était un grand changement de pensée, en tout cas, face au cancer. Et puis, malheureusement, notre corps rejette la vitamine A quand il y en a trop, et donc au bout de 6 mois, 1 an, le malade rechutait. Vient la médecine traditionnelle chinoise. Les Chinois de Harbin, dans Mandchourie, donc dans le nord de la Chine, avaient trouvé que l'arsenic faisait aussi le même effet auprès de cette leucémie. Et donc maintenant, en soignant les patients avec simplement le dérivé de la vitamine A naturelle et l'arsenic, eh bien, tous sont guéris sans chimiothérapie, sans greffe de moelle, sans rien d'autre. Deux produits naturels guérissent une leucémie. Donc vous voyez que c'est assez étonnant parce qu'on a pu transformer en fait compte une cellule maligne en cellule normale, abolir le dogme de l'irréversibilité de la cellule maligne où on pensait que tout cancer était bloqué. Et là, on a pu changer la cellule maligne.
Restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes après le point de l'actualité pour la suite de ce reportage d'Igor Strauss sur les relations franco-chinoises dans le domaine de la santé. Nous retournons tout à l'heure donc à Shanghai.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes à Shanghai, en Chine, où s'est tenu en octobre dernier le deuxième forum franco-chinois de santé publique et d'innovation médicale. Un rendez-vous organisé par la Fondation de l'Académie de médecine en partenariat avec la Société de médecine chinoise. L'occasion donc de revenir sur les liens étroits entre les médecins et les médecines de ces deux pays, des relations franco-chinoises dans le domaine de la santé. La suite du reportage d'Igor Strauss. Igor Strauss, la Chine a connu un véritable élan en matière de santé ces dernières années.
Oui, et en très peu de temps finalement, puisque les médecins chinois et français me rappelaient que jusque dans les années 80, les hôpitaux du pays étaient souvent sous-équipés, le personnel pas forcément bien formé et la recherche peu développée.
Alors qu'est-ce qui a permis cette progression de ces dernières années ?
Eh bien, la volonté politique et les moyens financiers. La Chine investit énormément dans la santé. Alors il y a trois sources principales de financement de la médecine en Chine, le gouvernement central, donc l'État, le gouvernement provincial, et en disant cela, il faut avoir à l'esprit ce que représente une province en Chine. Une province comme le Shandong, par exemple, à l'est du pays, c'est 100 millions d'habitants, Caroline, c'est plus grand que la France. Donc les provinces ont une force de frappe considérable. Et puis il y a également les GAFA chinois qui investissent énormément dans la santé. Les GAFA, c'est les géants du web, hein. Google, Apple, Facebook et Amazon. En Chine, on retrouve Alibaba, le mastodonte de la vente en ligne, Baidu, le Google chinois, ou encore Tencent, dont l'application WeChat est un succès mondial. C'est grâce à ces investissements massifs que la Chine a fait de tels progrès. Le professeur Daniel Loisance est académicien et ancien chef de service de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, en banlieue parisienne.
La comparaison de l'état de la médecine en France et en Chine risque de surprendre beaucoup de Français dans énormément de domaines. La médecine chinoise occidentale a largement dépassé la médecine française. Et ce, c'est vrai en termes d'organisation. Il y a maintenant, dans la totalité du pays, une infrastructure hospitalière de très très haute qualité. C'est-à-dire des hôpitaux magnifiques en termes d'organisation, en termes d'équipement, en termes de fonctionnalité. Et tous ces hôpitaux ont été construits en moins de 2 ans, en moins de 3 ans. Alors que si on fait une comparaison avec la France, en France, pour construire un hôpital, entre le moment où on décide et le moment où l'hôpital va ouvrir, il va s'écouler facilement 15 ans. Donc il y a eu une réactivité de la Chine à son insuffisance d'équipement tout à fait exceptionnelle. Et aujourd'hui, on peut dire que partout en Chine, même dans la Chine de l'Ouest, la moins développée, il y a une infrastructure hospitalière de toute première qualité.
Alors, la Chine est en avance, mais, puisqu'il y a un mais, il y a encore quelques ouais. niches. Hein.
Oui, la Chine est globalement en avance. Il y a des zones, cependant, dans lesquelles elle est franchement en retard. Alors, c'est, par exemple, le problème de la prise en charge des malades en insuffisance cardiaque terminale. C'est le problème de la chirurgie de transplantation. C'est le problème de la chirurgie d'assistance circulatoire. Alors là, ils sont considérablement en retard pour deux raisons. La première, c'est que la transplantation cardiaque en Chine n'existe que très difficilement, parce qu'il y a un énorme problème avec le don d'organes. Et en ce qui concerne la chirurgie de l'assistance circulatoire, celle-ci fait appel à des ventricules artificiels qui sont très coûteux. Et pour protéger son futur marché chinois, le gouvernement chinois a bloqué l'autorisation d'utilisation du matériel étranger. Il préserve le marché pour des produits chinois qui sont en cours de développement. Et la troisième difficulté, c'est que sur le plan gestion purement médicale des malades, ils ont de gros manques. Ils ne savent pas identifier les malades qui vont aller mal à court terme et ils ne savent pas gérer les malades avec les drogues les plus récentes. Dernier problème, c'est qu'ils continuent à avoir une approche très unispécialité de la maladie. Ils n'ont pas compris qu'il fallait une approche à la fois médicale et chirurgicale dans des structures dédiées. Donc là, il y a indiscutablement un manque et on peut énormément les aider à combler ce manque. Ouais, dans la vie, il y a quelque chose qui s'acquiert difficilement, c'est le polissage final. Et actuellement, la France représente pour eux la touche finale qui leur manque. Alors, l'approche médicale française qui reste heureusement, très humaniste, c'est quelque chose dont ils veulent s'inspirer. Et ils sont à la recherche aujourd'hui de cette teinture française finale, la touche finale. Alors un forum comme celui d'aujourd'hui, je crois que c'est plus du tout ce que c'était il y a quelques années, où la France venait, enseignait et ils écoutaient. Aujourd'hui, on partage. Et dans pas longtemps, on va les écouter.
La Chine s'est lancée depuis peu dans la recherche clinique. Le professeur Vico est responsable de l'unité de recherche clinique du groupe hospitalier Lariboisière Saint-Louis à Paris.
Grâce à des efforts considérables, il y a maintenant un système de santé en Chine qui est tout à fait remarquable à l'échelle de ce pays. Évidemment, maintenant, ce qui vient ensuite, c'est la volonté de développer la recherche clinique, parce que la recherche clinique, elle a plusieurs intérêts, évidemment l'intérêt direct, c'est-à-dire de développer des traitements qui sont spécifiques à la Chine, qui viennent de l'innovation chinoise. C'est aussi un moyen, de toute façon, toujours d'élever le niveau du soin dans les pays qui pratiquent cette recherche clinique à un haut niveau. Donc c'est, je pense, un moment où va se développer de façon absolument considérable la recherche clinique dans ce pays. C'est très intéressant pour nous. D'abord parce que ça nous offre des possibilités de coopération à très grande échelle, par exemple sur des essais cliniques qui pourraient être franco-chinois ou européo-chinois, et qui nous donnent des possibilités donc très intéressantes d'avoir un recrutement de patients qui ont peut-être d'autres caractéristiques, par exemple des caractéristiques génétiques qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe et qui peuvent avoir des réactions à des traitements en termes d'efficacité comme en termes d'effets indésirables qui sont différents. Donc c'est une possibilité qui est d'autant plus intéressante que maintenant on peut faire, grâce aux structures qui sont en place en Chine, de la recherche clinique à un très haut niveau. Et puis moi je dirais l'autre aspect, c'est que on a certainement maintenant, et ça sera de plus en plus vrai dans le futur, on a certainement aussi à apprendre de leur mode d'organisation, de leur choix d'organisation. J'en donnerai qu'un exemple. Au niveau des hôpitaux français, on a, il y a quelques années, organisé un système de centres d'investigation clinique qui sont destinés à la recherche translationnelle, c'est-à-dire celle qui est dans la phase très précoce. On a une idée, on a des données expérimentales et on veut faire les premières études chez le patient. Ces centres, en France, sont des centres qui ont, on va dire, entre 5 et 10 lits pour les explorations qui seront nécessaires à la recherche clinique. Je viens d'apprendre là, au cours de ce forum, que dans l'hôpital où nous nous trouvons, donc à Shanghai, ils sont en train de construire une plateforme nationale de recherche clinique qui aura 300 lits. On est donc là dans une organisation qui est absolument extraordinaire par son échelle. Mais aussi, ce qu'on voit bien, c'est qu'elle s'appuie sur une pensée politique extrêmement forte, extrêmement précise. Non seulement il y aura des lits, mais ils ont prévu d'ores et déjà la formation des personnels qui sera absolument nécessaire pour que cette plateforme travaille de façon optimale. Et de ce point de vue-là, si je me réfère à ce qu'on a en France, je dirais qu'on a peut-être maintenant beaucoup à apprendre.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes à Shanghai pour parler des relations franco-chinoises dans le domaine de la santé. Nous sommes à présent à l'hôpital Renji, un autre hôpital de référence qui développe également un partenariat avec la France. Le professeur Li Weiping est le président de cet hôpital de Renji.
En fait, vous savez que la collaboration entre sino-français, c'est, je crois que c'est très efficace. Et nous sommes bénéficiaires, je répète, que cette coopération, ça nous fait développer vraiment la recherche, la formation, le management des hôpitaux. Ça nous permettra d'atteindre, par cette coopération, un certain très haut niveau.
Et vous
savez que nous avons des échanges très fréquemment depuis des années. Nous avons déjà vingtaine des chirurgiens qui sont formés à IRCAD, à Strasbourg. Et vous savez que c'est une ville de très anciens, et nous aussi, c'est un très ancien hôpital. Et donc, c'est Shanghai, on est en train de construire une ville internationale qui est ouverte surtout au monde continu, bien sûr, et pour guérir des maladies fléaux, par exemple. Vous savez que c'est difficile à guérir, par exemple, des cardiovasculaires, de cancérologie, etc. etc. Pour, d'ailleurs, c'est dans d'autres domaines, c'est le management des hôpitaux, c'est bon service au peuple. Et il faut renforcer le niveau, la qualité de management. Je crois que nous, on peut être une plateforme, surtout en médecine et dans la santé publique, de continuer de développer, de renforcer la relation avec la France.
Très concrètement, dans quel domaine est-ce que vous pouvez encore vous améliorer ?
En fait, c'est le service. Parce que la Chine s'est caractérisée par la population, vous savez. Et maintenant, c'est par l'amélioration de la vie. Et les patients, c'est surtout les populations, ils demandent une très bonne qualité de service. Et vous voyez, parce que nous avons, dans ce cas-là, c'est comme celui de Luqing et de Lenqi, de très bons services, avec de haut niveau, avec de bonne qualité, c'est trop rare. Et dans ce cas-là, par cette coopération, on souhaite que peut-être on peut apprendre auprès de vous. Vous avez un bon service, la qualité, management des hôpitaux. C'est ça, je crois, que la Chine doit améliorer.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci. Merci.
Et aujourd'hui, l'hôpital Renji continue de se moderniser. Petite visite d'un service flambant neuf avec le professeur Richard Faux-Outhier, chirurgien thoracique de cet hôpital de Renji.
Ici, on est dans le centre de simulation et le centre de la chirurgie mini-invasive de l'hôpital Renji.
Et alors, quand on dit simulation, concrètement, ça veut dire quoi, la simulation ?
Pour aider des médecins débutants pour faire des gestes corrects, par exemple un massage cardiaque, on a des modèles pour ça, et l'intubation, il y a une salle d'anesthésie que vous avez de modèle 1 sur 1, 100% de pareil comme le corps humain, et vous faites entraîner des intubations par le modèle.
Et la chirurgie mini-invasive, elle permet quoi concrètement ?
Mini-invasive, ça veut dire que on fait seulement des interventions sous cœlioscopie, thoracoscopie et robotique. Ça veut dire que maintenant les interventions sont moins en moins invasives. On n'a pas besoin de faire une grande cicatrice, seulement deux ou trois incisions de 1 ou 2 cm. On peut compléter tous les interventions, même avec le curage ganglionnaire, tout ça.
Si on vous avait dit qu'un tel centre serait créé ici, il y a 10 ans, est-ce que vous auriez pensé que c'était possible ? Est-ce que les médecins chinois ici étaient formés à ces techniques ? Ou est-ce que c'est des progrès qui sont venus très rapidement, finalement ?
Même moi, je n'ai jamais imaginé de ça. En France, c'est connu le IRCAD de Strasbourg. Là-bas, il y a une centre de chirurgie viscérale très très connu, et chaque année on a des programmes pour inviter tous les experts de monde entier, soit sur place, soit par le satellite. On fait la démonstration de l'intervention même, et maintenant ici c'est réalisable aussi.
Mais comment vous expliquez ces progrès fulgurants faits par la Chine en matière de médecine?
Tout d'abord, c'est quand même grâce aux des amis européens, des américains, parce que vous voyez, chez nous, on a démarré quand même au moins 10 ans, 20 ans moins avancé. Mais après, comme moi, je fais mon internat et chef de clinique à Strasbourg. Là-bas, c'est le système de formation, c'est très bien fait, et on peut, comme on dit, former comme un vrai interne français. Et en rentrant, vous voyez, il y a centaines et centaines de médecins francophones sont venus de France et travailler dans toutes les disciplines de l'hôpital, on peut quand même décider de rénover quelque chose, d'emporter de l'idée de mini-invasive.
Oui, mais ça veut dire qu'il y a une volonté politique
bien
claire.
Sûr. Oui, bien sûr que oui. Hein. Oui, ça c'est clair. Même moi, je fais pas le parti communiste, mais j'adore mon pays aussi. Hein. La Chine, c'est quand même un pays aimable.
Vous pensez que la Chine a pris de l'avance maintenant sur des pays comme la France notamment, ou voire les États-Unis?
Non, pas avancé, mais avant, vous voyez, on suivait ce qu'on a dit les États-Unis, les Européens, et maintenant on peut quand même discuter un peu notre expérience. On peut avoir plus notre voix.
Un pied d'égalité.
Bien sûr que oui.
Et quand est-ce que vous allez dépasser l'Europe et les États-Unis?
Non, je pense pas. C'est pas une question de dépassement, parce que vous voyez, dans tous les domaines, notre action c'est plutôt imitation. Il y a moins d'innovation, quoi. C'est pas pareil comme en Europe.
Mais ça pourrait venir ou pas, selon vous, l'innovation en Chine?
Il faut voir la génération prochaine. Là, je savais pas, parce que moi, je suis toujours le modèle, mais je crée pas.
Parce que tout va très vite ici. Oui, on le voit bien.
Oui, tout à fait.
Lors de ce deuxième forum franco-chinois de santé publique et d'innovation médicale à Shanghai, des accords de coopération entre les deux pays ont été signés. Yves Juillet, secrétaire général de la Fondation de l'Académie de médecine.
Alors nous avons signé une convention qui est une convention tripartite entre d'une part l'université de Jiaotong, l'Académie de médecine et la Fondation de l'Académie de médecine. Alors cette convention, elle porte sur un certain nombre de points. Premièrement, des échanges de personnes. Deuxièmement, des formations en tant que telles, et donc que des formateurs de France puissent venir ici à propos de certains sujets. Et on a vu à l'hôpital de Suzhou, par exemple, le fait qu'il y avait une formation à la lecture de l'IRM, avec des gens d'ailleurs qui avaient été en partie déjà formés en France, mais secondairement la poursuite de formation ici. Troisième élément, l'organisation de réunions qui sont des symposiums spécialisés. Nous faisons des grands forums qui sont pour ouvrir les portes. Et ensuite, derrière, il peut y avoir des symposiums spécialisés sur un certain nombre de sujets. Alors, par ailleurs, dans cette convention, sont déterminés des thèmes de travail, des thèmes qui sont considérés comme étant essentiels pour les deux pays, pour les parties prenantes qui ont signé cette convention. Alors, je peux vous citer quelques éléments de cette convention. C'est autour du diabète et de l'obésité, problème majeur dans tous les pays, y compris les pays émergents. Deuxièmement, le problème de la pollution. Troisièmement, le problème de la gériatrie. Quatrièmement, et hier on en a parlé, des maladies infectieuses. Et également, les questions de chirurgie au sens général du terme. Donc ce sont des thèmes qui sont relativement larges et que l'on va pouvoir reprendre dans des activités complémentaires entre nos trois organisations.
Igor Strauss, depuis plusieurs années déjà, la Chine s'intéresse à la recherche médicale.
Oui, la Chine souhaite devenir le leader mondial de la recherche et s'en donne les moyens. En 2004, la France et la Chine ont signé un accord de lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Et cette même année 2004, l'Institut Pasteur de Shanghai, Académie des sciences de Chine, a été inauguré. Ce sont les deux présidents de l'époque, Jacques Chirac et Hu Jintao, qui avaient souhaité sa création suite à l'épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui était parti de Chine en 2002. Et puis le 16 juin 2016, les deux pays ont inauguré le laboratoire P4, le premier laboratoire de haute sécurité de Chine, qui se trouve à l'ouest de Shanghai, à l'Institut de virologie de Wuhan.
Et Igor, à quoi sert un laboratoire de haute sécurité?
Il permet de faire de la recherche sur les pathogènes qui ne peuvent pas être traités dans un environnement classique, comme les fièvres hémorragiques de type Ebola ou la fièvre jaune par exemple. Et de façon plus générale, de
tels laboratoires, que ce soit le P4 ou ceux de l'Institut Pasteur, permettent à la Chine de se lancer dans une recherche par anticipation. La Chine souhaite contrôler autant que possible les maladies émergentes et prévenir toute épidémie.
Alors comment l'expliquer ?
Bien, pour deux raisons principales. La première, c'est en raison de l'importance de sa population. Presque 1,4 milliard d'individus. Le directeur de l'Institut Pasteur de Shanghai, le professeur Fernando Aranzana, me racontait qu'il y a peu, des cas de fièvre jaune importés d'Afrique ont été diagnostiqués en Chine. Alors il faut savoir que les capacités mondiales de fabrication du vaccin contre la fièvre jaune se résument à quelques millions par an. Imaginez maintenant qu'une épidémie se déclare en Chine, il n'y aurait pas assez de vaccins.
Et peut-être une autre explication ?
Le président chinois actuel, Xi Jinping, a lancé un gigantesque programme appelé One Belt, One Road, ce qui signifie une ceinture, une route. C'est une sorte de reconstitution de la fameuse route de la soie, le symbole du retour de la Chine parmi les super grands. Avec ce programme, Pékin propose d'ouvrir des corridors ferroviaires et maritimes qui relieront la Chine et l'Europe et la Chine et l'Afrique. Mais qui dit ouverture de corridors, passage de marchandises et de population dit passage de virus ou d'agents pathogènes, et cela inquiète vraiment les Chinois.
Alors Igor Strauss, on vous retrouve maintenant à l'Institut Pasteur de Shanghai avec Dimitri Lavillette. Il est chercheur et professeur de l'Académie des sciences chinoises.
Une grosse pression du gouvernement pour pouvoir faire de la recherche sur Zika, parce que ça peut être éventuellement un gros problème de santé publique si jamais il y a une épidémie en Chine avec les problèmes des mégacities. Et aussi, il y avait la fin de la politique de l'enfant unique qui tombait un peu en même temps que l'épidémie de Zika. Donc tout le monde espérait en Chine un boom des naissances et donc un boom de femmes enceintes. Et Zika, c'est principalement un gros problème dans le cas des femmes enceintes, puisqu'en fait, le virus Zika va infecter le fœtus et conduire à des anormalités au niveau du cerveau. C'est dans ce cadre-là de prévention que le gouvernement pousse de plus en plus la recherche sur différents pathogènes, même s'ils ne sont pas en Chine.
Vous pensez auquel, par exemple ?
Il y a un virus qui s'appelle notamment Ouzoutou, par exemple, qui était cantonné à l'Afrique il y a quelques années. Maintenant, il est arrivé en Europe via les oiseaux migratoires. Et récemment, il y a des cas humains qui ont été aussi décrits maintenant. Donc voilà, c'est des types de virus qu'il faut surveiller. Et il faut être capable donc de détecter, c'est ça le gros problème. Si on veut surveiller quelque chose, il faut être le détecter. Et souvent, c'est là où le bât blesse, c'est qu'il n'y a pas de diagnostic très facile pour toutes ces maladies négligées. Donc il faut, c'est vraiment le problème, c'est vraiment une mission de la recherche académique d'anticiper tous ces développements et donc de travailler sur des pathogènes qu'on appelle négligés pour pouvoir facilement donner des outils aux industries pharmaceutiques ou même aux industries de vaccins pour qu'ils puissent développer des produits rapidement en cas d'épidémie qui risque de se développer, ou alors même si on voit un mouvement de ce virus, en tout cas comme là pour exemple Ouzoutou, c'est un bon exemple parce que clairement c'était seulement un problème animal, de santé animale, et finalement maintenant c'est pour ça qu'il peut passer à l'homme, donc ça doit devenir un problème de santé publique. Et voilà, c'est clairement un exemple où il faut développer la recherche académique pour être prêt en santé humaine, quoi.
Ce que vous faites vous ici, notamment améliorer la détection, c'est ça?
Alors nous on a un gros projet avec l'Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal notamment, et le but c'est ça, c'est de faire un peu, ils ont fait, l'Institut Pasteur de Dakar fait régulièrement des prélèvements de moustiques ou d'animaux sur le terrain, et ils découvrent des virus qui n'ont pas forcément encore créé d'épidémies majeures. Et donc voilà, c'est un type de projet qu'on développe avec eux, et on essaye de travailler sur des virus qui sont négligés, voilà, là.
Quels sont les axes de recherche qui sont sur le point d'aboutir ?
Bah là, actuellement, sur le feu, on a vraiment des études... Sur le virus Zika notamment, parce qu'une des grosses questions, c'est pourquoi est-ce que le virus Zika, donc était en Afrique pendant des années et des années, il a commencé à s'échapper de l'Afrique, est arrivé en Micronésie, à l'île de Yap, ensuite il a continué son périple, il a été en Polynésie française en 2013-2014, et surtout il est arrivé en 2015 au Brésil, en Amérique du Sud. Donc c'est vrai que la grosse question qui se passe, c'est pourquoi est-ce qu'on ne détecte pas forcément d'infection en Afrique majeure avec des pathologies sérieuses, et par contre au Brésil il y a eu vraiment des pathologies catastrophiques, notamment au niveau des enfants. Donc la grosse question, c'est pourquoi est-ce que le virus a augmenté son agressivité, je dirais, en termes de maladie. Et du coup on a un travail actuellement sur une protéine vraiment où on suspecte qu'il peut avoir un rôle important, qui aurait muté au cours de son évolution entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, et qui pourra avoir un rôle dans l'augmentation de la sévérité de la maladie. Et on a un autre projet qui est aussi intéressant, que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous voyez depuis quelques années, tous ces virus, il y a des épidémies un peu partout. Donc on a parlé de chikungunya, qui est un virus transmis par moustique, on a parlé de dengue, qui est un virus transmis par moustique, on parle maintenant de Zika, qui est un virus transmis par moustique. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que de plus en plus, la distribution géographique de ces virus se chevauche, et il y a des risques en fait de co-épidémie et donc de co-circulation de tous ces virus. Et la question basique que je me suis posée avec une étudiante en thèse, c'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qui va arriver quand les virus vont infecter une personne, donc avoir des co-infections, donc pas seulement une infection par un virus, mais une infection de chikungunya et dengue en même temps, ou Zika et dengue en même temps. Donc qu'est-ce qui va se passer chez cette personne, mais aussi qu'est-ce qui va se passer chez le moustique. Et donc c'est un peu les sujets qu'on est en train de faire, et on a une publication sur ça au niveau du moustique, où on montre que malheureusement la présence d'un virus peut faciliter la diffusion de l'autre virus, en fait. Donc ça peut avoir des conséquences un peu importantes en termes d'épidémiologie, ou dans le sens où voilà, on peut avoir une première épidémie par un virus qui va favoriser un peu le terrain pour une deuxième épidémie par un deuxième virus transmis par moustique, et faciliter sa propagation et peut-être sa vitesse en tout cas d'extension.
Les relations franco-chinoises dans le domaine de la santé, c'était un reportage d'Igor Strauss, réalisé par Victor Hull. Et c'est la fin de Priorité Santé. Vous retrouverez lundi à ce même micro Diarandiaï pour une émission consacrée à la drépanocytose. À lundi.